Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons commencer notre contemplation de la très sainte Vierge Marie. En effet, saint Thomas d'Aquin nous a montré qui est le Christ, la splendeur du Christ. Il nous a fait entrer dans la sagesse de Dieu qui a voulu l'incarnation. Et du coup, nous avons découvert des choses très élevées sur le Verbe fait chair. Et cela peut peut-être nous troubler. C'est tellement élevé. De même, nous avons eu la révélation de la grande élévation de la vie intérieure. Par l'adoption divine notamment, nous avons mieux compris à quoi Dieu nous appelle à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Posséder l'héritage du ciel, c'est-à-dire Dieu lui-même, en compagnie de notre Seigneur qui est Dieu. Et une telle élévation a de quoi peut-être nous inquiéter. Je vous ai dit que le chrétien devait vivre de Dieu, face à Dieu, et qu'on le prêchait peu, parce qu'on avait peur peut-être des dérives. Et c'est pourquoi Dieu a voulu que son fils naisse d'une femme, qui est vierge bien entendu, qui est sainte, qui est Immaculée Conception, mais enfin, qui est une femme tirée de la nature humaine, de la race humaine. Cela va nous rassurer parce que nous nous rendons bien compte que cela va rendre beaucoup plus proche de nous le mystère de la rédemption. Cela va nous le rendre beaucoup plus accessible. Donc, lorsque saint Thomas semble interrompre son traité sur notre Seigneur Jésus-Christ pour entrer dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir fait toute la théorie, il entre dans des choses plus concrètes. Il semble s'interrompre en parlant de la Sainte Vierge. En réalité, non. Il entre au contraire pleinement dans le plan de Dieu. Ces grandes réalités dans lesquelles nous allons entrer un peu après, ce que nous allons reprendre sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons découvrir notamment la passion, la croix, dont nous n'avons pas encore parlé, ou à peine, sont des grandes réalités dans lesquelles il est difficile d'entrer. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'un intermédiaire auprès de l'intermédiaire, dit saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Nous avons besoin que la Sainte Vierge nous prenne par la main pour nous conduire à son Fils, qui est en même temps le Fils éternel de Dieu. La première chose, quand on parle de la Sainte Vierge, quand on la considère, c'est de voir sa grandeur. Il ne faut pas se précipiter sur les grâces qu'elle nous donne, les avantages que nous en tirons, la protection qu'il nous accorde. Bien sûr, toutes ces choses-là sont importantes. On ne va pas dire le contraire. Cela a été voulu par Dieu. Mais c'est comme si nous nous précipitions sur les grâces que Jésus-Christ doit nous donner en omettant de considérer sa divinité, la splendeur de son âme, sa propre contemplation. Nous passerions à côté des richesses et du coup nous pourrions plus profiter de ce que la Sainte Vierge, de ce que Jésus-Christ veulent nous donner. Qu'a fait Jésus? Et ça va être très important. Qu'a fait la Sainte Providence? Ça va être très important parce que nous avons là la première réalisation de la sainteté voulue par Dieu dans une nature humaine, non pas dans la nature humaine du Fils de Dieu, qui est évidemment dans une situation particulière. C'est évident que nous avons un modèle avec Jésus-Christ. C'est évident que nous avons un modèle. Seulement, ce modèle est la nature humaine du Fils de Dieu. Là, nous avons la première réalisation dans un modèle qui est purement humain et qui va être, si vous voulez, une copie du modèle, mais une copie plus accessible. Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort dit comme la Sainte Vierge a été comme moulée dans un moule. Donc nous allons voir ce que Jésus-Christ a fait dans la Sainte Vierge. Et si nous prenons saint Thomas d'Aquin pour guide, c'est parce que saint Thomas d'Aquin, qui est un saint, ne l'oubliez jamais, hein, avant d'être un théologien, c'est un saint. Il comprend les choses de Dieu. Il les explique, bien sûr, mais il les comprend. Et la première chose dont il nous parle, c'est la sainteté de Marie. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui compte. Nous sommes sur terre pour être saints et gagner notre ciel. Donc la première chose, il nous parle de la sainteté de Marie. Et lorsqu'il nous parle de la sainteté de Marie, la première chose dont il nous parle, c'est évidemment l'Immaculée Conception. Parce que l'Immaculée Conception, c'est la sainteté la plus parfaite. Et après ça, nous allons voir qu'il nous parlera de la virginité de Marie. Et nous verrons l'importance de cela. C'est un dogme, mes bien chers frères. La Très Sainte Vierge a été immaculée dans sa conception. Il s'agit là de la conception de la Très Sainte Vierge dans le sein de sa mère Sainte Anne. Et nous ne parlons pas de la conception de Jésus dans le sein de Marie. La Sainte Vierge a été conçue immaculée, c'est-à-dire que selon la définition dogmatique de Pie IX, elle a été préservée de tout péché originel. Ce n'est pas qu'elle a été purifiée, elle n'a même pas été atteinte par le péché originel. Elle le méritait, comme tous ceux qui sont fils d'Adam. Mais comme elle devait devenir la mère du Fils de Dieu, il était plus que convenable que Dieu lui donne ce privilège. Pour qu'il y ait entre elle et Jésus-Christ une très grande intimité, une très grande convenance, grâce à cette sainteté, grâce à cet éloignement de tout mal, la Sainte Vierge entre dans une grande intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas seulement que c'était nécessaire pour la dignité du Fils de Dieu. Bien sûr que c'était nécessaire pour la dignité du Fils de Dieu. Jésus-Christ n'allait pas s'incarner dans une pécheresse. Mais c'est également parce que Dieu réalise là, avec une grande perfection, l'intimité qu'il veut créer avec nous tous, qui ne sera pas au même niveau, mais qui sera de la même nature. Puisque la Sainte Vierge est immaculée dans sa conception, c'est-à-dire que dès le premier instant de sa vie, elle était en état de grâce, il y a un privilège supplémentaire, c'est que elle fut préservée du foyer du péché. Préserver le foyer de péché, c'est-à-dire préserver de la concupiscence. Cette tendance qui est en nous, cette blessure qui est en nous, qui est tellement importante pour nous rappeler notre condition, qui n'est pas seulement une condition d'homme créé, mais une condition d'homme blessé, d'homme charnel. Et la Sainte Vierge est tout sauf charnelle. Elle est faite de chair, mais elle n'est pas charnelle. Et donc il y a une préservation, il n'y a pas de tendance, ce qui fait que, de tendance mauvaise, ce qui fait que son esprit s'envole avec la plus grande aisance vers Dieu, sa contemplation de Dieu est d'une liberté totale et absolue, et par conséquent, les progrès de la vie de la grâce dans la Très Sainte Vierge, ne rencontrant aucun obstacle, les progrès vont être merveilleux et vont la faire monter très très haut. Parce qu'il est évident que la Sainte Vierge progresse en grâce. du moment qu'on a la vie, il est de la nature de la vie de grandir. Et la Sainte Vierge a grandi comme tout le monde. Mais elle n'a pas grandi en partant du mal pour aller au bien, elle a grandi en partant de la pureté pour aller à une grande union à Dieu. Il n'y a aucun péché en la Sainte Vierge, pas même véniel. L'Écriture sainte nous dit « La sagesse n'entrera pas dans une âme mauvaise. Elle n'habitera pas dans un corps esclave du péché. » Le Cantique des Cantiques, qui est un hymne à la sainteté, qui s'adresse à l'âme et qu'on applique très souvent à la Sainte Vierge, « Tu es toute belle, ma bien-aimée, il n'y a pas de tache en toi. » La Sainte Vierge, en plus d'être préservée du péché, est pleine de grâce. D'ailleurs, c'est comme ça que l'ange la salue. « Je vous salue pleine de grâce. » Pour être digne d'être la mère de Dieu. C'est normal, vous voyez. Parce que nous sommes dans un monde de la grâce. Même l'incarnation, le Verbe s'est fait chair. Le terme est très concret, chair. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair, non pas à la manière de Vatican II, dans lequel on se plaît dans les choses humaines du monde. Le Verbe s'est fait chair pour sortir la chair de sa condition charnelle et l'élever à une condition spirituelle. Et voilà pourquoi la Sainte Vierge est pleine de grâce. En enfantant le Christ, elle va faire dériver la grâce vers nous, saint Thomas d'Aquin le dit, c'est la médiation de la Très-Sainte Vierge, nous en parlerons, parce que c'est important, plus à loisir dans un autre sermon. Je vous donnerai toute la théologie sur la Très-Sainte Vierge, notamment avec saint Louis-Marie Grillon de Montfort, qui vraiment, pour notre époque qui est si démunie, vous voyez, les époques précédentes étaient encore des époques spirituelles. Spirituelles au sens propre du terme, c'est-à-dire l'esprit était encore libre. Mais notre époque est une époque engluée dans la terre, dans la chair, même dans la boue du péché, très souvent. Et voilà pourquoi le bon Dieu a suscité saint Louis-Marie Grillon de Montfort pour faciliter l'œuvre du salut même chez ceux qui sont englués dans le péché. Et la très sainte Vierge a été mise en valeur par saint Louis-Marie Grillon de Montfort justement pour notre époque, parce que aucune époque n'est condamnée par Dieu, aucun homme n'est condamné par Dieu. Et aussi bas soient tombés les hommes aujourd'hui, malgré tout, Dieu veut les sauver. C'est important, mes bien chers frères. Parce que méfions-nous d'une tendance pharisaïque qui considère le pécheur comme un être perdu, et il n'y aurait que le pharisien qui pourrait être sauvé. Cette tendance pharisaïque a toujours existé, mais dans une période de crise comme la nôtre, elle tente particulièrement ceux à qui Dieu a montré la malice du monde et à qui il a montré la voie, et qui peuvent s'enorgueillir de prendre cette voie. À ce moment-là, ils ne se rendent pas compte, mais ils tomberont, et ils tomberont de haut. Alors faisons attention à cela, hein. La Sainte Vierge a demandé de prier pour les pécheurs, pour tous les pécheurs. Si nous devons prier, saint Thomas d'Aquin nous dit, il doit y avoir équivalence entre la prière et le désir. Tout ce qu'on désire, on doit le demander à Dieu, tout ce qu'on demande à Dieu, c'est ça qui est digne d'être désiré. Autrement dit, on doit désirer le salut des pécheurs. Et si on désire le salut des pécheurs, on doit y travailler. Pas seulement prier, mais y travailler. Donc la Sainte Vierge est pleine de grâce. Elle a une triple perfection de la grâce. Tout d'abord, la grâce la rend capable d'être la mère du Christ. C'est la perfection de la sanctification. Elle est sanctifiée, rendue sainte. Deuxième perfection de la grâce, en raison de la présence du Fils de Dieu incarné dans son sein. Troisième perfection de la grâce, c'est celle qu'elle a obtenue par son assomption au ciel. Elle possède Jésus-Christ dans la gloire. cette perfection n'est pas une perfection absolue. La perfection absolue, l'immensité de la grâce, c'est la gloire de Dieu. Cette perfection est nécessairement une perfection qui est créée dans une nature humaine et qui a ses limites. Mais on parle de perfection, par exemple pour Jésus-Christ, la perfection de la grâce, c'est que non seulement Jésus-Christ a toute la, dans sa nature humaine, a toute la sainteté qui lui convient à cette nature humaine, mais en plus elle déborde sur nous. La perfection et la plénitude de grâce en la Sainte Vierge est non seulement de n'avoir aucun défaut, aucun péché, aucun foyer de péché, mais également d'être parfaitement apte à être la mère du Fils de Dieu et à tenir près de nous la place de mère que Dieu a voulu qu'elle tienne. Saint Thomas, après avoir montré la plénitude de grâce, nous fait contempler la virginité de Marie. En lisant les commentaires de saint Thomas, c'est toute une atmosphère d'élévation spirituelle qui se dégage de la virginité. Et c'est normal, parce que la virginité, c'est cela. La virginité, ce n'est pas un élément matériel, ne pas connaître d'homme, parce que vous avez des femmes, des filles, qui ne connaissent pas d'homme et qui ne sont pas vierges, parce qu'elles ne désirent pas. Je ne dis pas qu'elles ont fauté, mais elles ne désirent pas leur virginité. Il y a dans la virginité un élément concret, matériel, ne pas avoir connu d'homme, mais surtout un élément spirituel, qui est d'être dégagé des choses d'ici-bas pour être pleinement libre d'adhérer aux choses spirituelles. S'il n'y avait pas eu le péché originel, le mariage n'aurait pas empêché la contemplation. Mais, à cause du péché originel, il est très rare, que le mariage n'empêche pas la contemplation. Saint Jean Chrysostome nous dit « Abraham, avec deux femmes, a été plus chaste que beaucoup de saints. » Mais c'est une exception. Et donc il est normal, quand on parle de virginité, que tout de suite se dégage un esprit, une atmosphère, j'allais dire une odeur, une bonne odeur, non seulement de pureté, mais d'élévation, de contact de Dieu, de vie spirituelle. Et voilà pourquoi la virginité de Marie est très importante. Marie était vierge pour sauvegarder la dignité de Dieu, Dieu le Père, qui envoie le Fils dans le monde. Il n'aurait pas été convenable que son Fils eût un Père charnel. Marie est vierge à cause de la perfection du Verbe, qui est tout spirituel. Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas besoin d'insister, tout le monde le comprend. Marie est vierge car la chair du Fils de Dieu ne pouvait être héritée d'Adam, par qui le péché originel est transmis à toute sa descendance. Oui, notre Seigneur est un homme. Oui, sa chair, c'est sûr, est une chair humaine. Mais c'est une chair qui, étant née uniquement de la femme, n'a pas la même malédiction que celle qui pèse sur ceux qui sont pleinement les descendants d'Adam. La Sainte Vierge est vierge à cause du but de l'incarnation du Christ, qui est de faire renaître les hommes en fils de Dieu, non d'un vouloir de chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dernier évangile de la messe. Saint Jean parle de notre Seigneur Jésus-Christ et dit quels sont ceux qui vont s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme la Sainte Vierge est la première à être unie à notre Seigneur, et comme elle est celle qui nous mène, nous, à notre Seigneur, eh bien cela s'applique à elle en premier. Elle n'est pas née d'un vouloir charnel, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il fallait que notre tête, Jésus-Christ, naisse selon la chair, d'une Vierge par un miracle insigne pour montrer que les membres, c'est-à-dire nous, devaient naître selon l'Esprit de cette Vierge qu'est l'Église. C'est saint Augustin qui dit cela. Autrement dit, la virginité de Marie crée comme tout un mouvement de virginité, un mouvement de pureté, c'est-à-dire un mouvement d'élévation, un mouvement de sainteté qui nous emporte nous aussi, et nous devons nous laisser emporter par elle. La Sainte Vierge a été vierge avant, pendant et après l'enfantement. Ça, c'est un dogme qui ne se trouve pas dans l'Écriture sainte, qui se trouve dans la tradition. Et c'est l'occasion de vous rappeler, mes bien chers frères, que la parole de Dieu, une partie a été écrite, mais une partie, nous dit le Concile de Trente, et c'est un dogme cela, une partie a été transmise comme de main en main à l'intérieur de l'Église, jusqu'à nous, et le sera jusqu'à la fin des temps, et ça s'appelle la tradition. Il y a beaucoup de choses de la tradition qui sont dans l'Écriture sainte, mais pas tout, et notamment la virginité de la Très Sainte Vierge pendant et après l'enfantement. Ça, c'est la tradition qui nous l'enseigne de façon absolument infaillible. Parce que la tradition, la vraie tradition, c'est la parole de Dieu. Pendant l'enfantement, j'allais dire, c'est évident, le Christ est spirituel. Et après l'enfantement, on n'imagine pas la Sainte Vierge d'abord donner des frères à Jésus-Christ, ça n'aurait pas de sens. Et puis connaître Saint Joseph, ça n'aurait pas de sens. Et il faut remarquer que ce dogme de la virginité de Marie est un dogme qui a été reçu sans aucune difficulté par les chrétiens, parce que le chrétien est naturellement à l'aise dans les choses spirituelles. De même, les enfants, quand on leur dit que la Sainte Vierge est vierge, ne se posent aucune question. Ce sont les hommes charnels, les hommes terrestres, les hommes qui ont été pervertis par le rationalisme démoniaque des temps modernes qui ose mettre en cause la virginité de la Sainte Vierge. Ne vous laissez pas impressionner par tout ce qu'on peut dire sur le fait que Jésus aurait eu des frères et que ceci et que cela. Cela vient de trop bas pour nous impressionner. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà dans quelle splendeur d'élévation, de spiritualité, de beauté, nous entrons. Déjà, nous le voyons en nous mettant à la suite du Christ. Et cela devient de plus en plus, le tableau devient de plus en plus beau, de plus en plus facile à contempler. Il va être de plus en plus facile d'entrer dans cette voie, et nous nous rendons bien compte que cette voie, qui est parfaitement réalisée chez la Sainte Vierge, c'est aussi pour nous. Et par Marie, nous entrerons dans cette perfection. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Vierge des Vierges, sauvez-nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.